Et c'est comme chaque semaine l'heure d'Open Source avec vous, Matteo Caranta, de retour dans le studio. Et cette semaine, vous nous parlez d'une enquête sur les travailleurs de l'intelligence artificielle française.
Le succès de ChatGPT ou des images générées par des intelligences artificielles et les débats qu'ils occasionnent ne laissent pas de place au doute. L'intelligence artificielle est en train de chambouler notre manière de nous déplacer, de nous projeter dans l'espace, de faire des recherches ou de regarder des images. Mais ces IA impliquent aussi une foule d'ouvriers de l'ombre et questionnent le futur du travail. ChatGPT fonctionne, une enquête du Times le révélait récemment, sur des centaines de travailleurs précaires au Kenya qui trient des données. Alors comment fonctionne l'industrie de l'IA à la française, c'est l'objet du projet Hush qui s'intéresse à la chaîne d'approvisionnement humain derrière les technologies intelligentes. Une enquête d'Antonio Casilli, de Maxime Cornet et de Clément Leludec publiée dans The Conversation avec un premier constat au départ de l'enquête. En France, les startups se tournent majoritairement vers Madagascar où elles externalisent le travail du tri. Clément Leludec.
En fait, il y a eu vraiment plusieurs modèles. Il y a eu le modèle CAPTCHA où on va profiter du travail gratuit des internautes en leur faisant remplir des CAPTCHA. Il y a eu ces plateformes à la Amazon Mechanical Turk où on va payer des tâches quelques centimes et ce sera une foule de travailleurs qui font pas forcément ça à temps plein. Et puis, il y a des modèles qui initialement sont dits d'externalisation à impact. Et il y a un dernier modèle qui va être l'externalisation auprès de grandes entreprises de sous-traitance à Madagascar ou aussi aux Philippines. Les entreprises d'IA vont piocher dans tous ces modèles économiques d'externalisation du travail de la donnée en fonction de leurs besoins. Évidemment, la variable principale, ça va être le coût du travail.
Il faut imaginer d'immenses bureaux ouverts comme des centres d'appels téléphoniques où des centaines de personnes trient des images, des mots, des formes, indiquent à l'intelligence artificielle ce qu'elle doit ou non discriminer dans ses calculs. Mais l'organisation du travail interroge. Pour Clément Leludec et son équipe, un véritable plafond de verre est mis en place à l'encontre des travailleurs malgaches. Les postes les mieux rémunérés sont exclusivement réservés aux expatriés. Sur un projet de start-up de transcription numérique de livres anciens, par exemple, le budget est divisé en 3 volets égaux, le salaire des expats, le coût des bâtiments et de la connexion Internet et le salaire des centaines de travailleurs malgaches.
Ça donne une idée en fait de ce qui se joue aussi en termes d'inégalité de la chaîne de valeur et d'inégalité dans le partage de la valeur qui s'appuie aussi sur des logiques postcoloniales parce que les entreprises françaises vont profiter d'une population qui est bien formée et en plus une population qui parle bien français. Du fait du passé colonial de Madagascar. Et en fait, quand on parle de colonial recall, alors c'est un chercheur qui s'appelle Yann Padios qui a parlé de ça à propos des centres d'appel aux Philippines pour les clients américains. C'est l'idée que la valeur économique qu'on va dégager de cette activité de service, elle est liée au passé colonial des pays dans lesquels on installe ces centres de service. C'est-à-dire que les entreprises qui vont faire de la sous-traitance dans ces pays-là vont en fait extraire de la valeur de tous ces éléments de compétences linguistiques, mais même parfois en termes de formation et de compréhension de la culture du pays donneur d'ordre, qui sont liés du coup au passé colonial du pays.
Dans leur enquête, les trois chercheurs questionnent aussi ce que cette organisation du travail fait à l'intelligence artificielle. Comment, in fine, ce sont ces travailleurs qui ont la main sur ce que comprend, et je mets des guillemets, et sur ce que décide, et je mets toujours des guillemets, l'intelligence artificielle. Penser une éthique de l'IA, ce serait donc d'abord penser une éthique du travail de l'intelligence artificielle.
Ces travailleurs-là, c'est eux qui vont avoir la vision finalement la plus complète de ce qu'il y a dans les données, puisque au quotidien, ils ont accès à toute la variété des données qu'on va chercher à faire apprendre au modèle. Et donc, en faisant ça, ils participent aussi à faire émerger d'autres cas d'usage potentiel du modèle, d'autres biais potentiels aussi, tout simplement. Et c'est de ce point de vue-là que si on veut parler d'éthique de l'IA et de parler de la question des biais, il faut prendre en compte la façon dont c'est fait, l'organisation du travail qu'il y a derrière et le rôle de ces travailleurs qui est beaucoup trop minimisé, y compris en termes d'impact sur le modèle final. Et c'est pour ça que nous, on appelle à cette éthique du travail de l'IA parce qu'on considère que ça répond à un double enjeu. Réfléchir à ce que c'est que l'intelligence artificielle et à comment c'est construit. Et les travailleurs vont aussi avoir un impact sur cette manière de fonctionner.
Derrière l'IA, les travailleurs précaires du Sud, une enquête publiée sur The Conversation à retrouver sur la page d'Open Source et sur l'application Radio France.
Merci beaucoup Mathéo et on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres histoires d'enquête. Il est 7h37.